Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser vos sources qui nous baladent pas mal, hein, Afrique de l'Ouest, Cameroun.
Moscou, Washington aussi.
Oui, voilà. Avant de revenir sur des sujets plus internes au Nigeria, au Sénégal, l'idée c'est de voir ce qui ressort de tout ça.
Exactement. On va essayer de décrypter un peu les tendances, l'autonomie qui est recherchée, le rôle des partenariats, l'impact des crises mondiales.
Et les défis de gouvernance chez eux. Bon.
C'est ça. Un bon tour d'horizon, quoi.
Alors, commençons au Burkina Faso. Il y a un truc assez étonnant qui est ressorti. Des pick-up transformés en blindés légers.
Ah oui, ça c'est présenté au salon SAISDEF à Ouaga. C'est assez parlant, non? Face à l'urgence sécuritaire.
C'est du système D, mais à un niveau stratégique.
C'est un peu ça, oui. Ce qui est fascinant, c'est cette débrouillardise, cette adaptation rapide avec les moyens locaux. Ça coûte moins cher, ça rend moins dépendant de l'extérieur.
Et ça pourrait inspirer d'autres pays dans la même situation, j'imagine.
Ben oui, potentiellement. C'est une approche très différente de ce qu'on voit ailleurs.
Justement, en parlant de différence, le Cameroun, là on est dans le projet pharaonique, la phase 2 du port en eau profonde de Kribi.
Ah oui, Kribi. C'est le plus grand de la région, fait avec les Chinois, CHEC.
China Harbor Engineering Company.
Un projet typique de l'initiative « La ceinture et la route de Pékin ».
Tout à fait. C'est vu comme essentiel pour l'économie du Cameroun et même de toute l'Afrique centrale. On parle d'une nouvelle ère.
Mais ces grands projets avec la Chine, ça soulève moi aussi des questions de dépendance?
Si, bien sûr.
C'est toujours le revers de la médaille avec ces partenariats majeurs. Le bénéfice économique immédiat est là. Mais quid de la dépendance stratégique à long terme? C'est une vraie question?
Changeons de registre. Géopolitique pure. Ibrahim Traoré, le président de transition burkinabé, qui s'extasie devant le missile hypersonique russe, l'Oreshnik.
Celui qui vole à Mach 5, manœuvrable, quasi un interceptable.
Il dit que c'est une arme qui fait trembler le monde. C'est fort comme déclaration.
Très fort. Et ça arrive dans un contexte où, bon, certains pays du Sahel se rapprochent de Moscou, et puis il y a l'Ukraine, où ces armes sont utilisées.
Et la Russie qui dit que ces missiles ne sont pas couverts par les traités existants.
Exactement. Ça, c'est crucial. Ça crée un flou stratégique, une zone grise qui inquiète beaucoup, parce que ça pourrait relancer une course aux armements.
Toujours sur les relations internationales, mais plus bilatéraux. L'Afrique du Sud face aux États-Unis.
Ah oui, cette histoire de statut de réfugié accordé par Washington à certains Sud-Africains, notamment des fermiers blancs.
Les Afrikaners, oui, ça date d'un décret de Trump, mais ça continue de tendre les relations.
Washington parle de persécution, de saisie de terre, Pretoria rejette ça en bloc.
Ils mettent en avant leur constitution.
Oui, ils disent qu'elle protège tout le monde, qu'il n'y a pas de persécution organisée. Ils demandent le dialogue, quoi. C'est un vrai différent sur la perception de la situation interne sud-africaine.
Et en mots sur l'Ukraine, une initiative européenne pour un cessez-le-feu.
Oui, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, ils ont proposé 30 jours de trêve à Moscou. Ils en ont parlé à Kiev aussi.
C'est ça. Les États-Unis soutiennent avec des menaces de sanctions si la Russie refuse. Mais bon, Moscou lie tout à l'arrêt des livraisons d'armes occidentales.
Et une trêve précédente avait été violée apparemment.
Voilà, donc l'issue est, comment dire, très incertaine. C'est compliqué.
Revenons sur le continent avec des décisions internes. Au Nigeria, fin des bourses pour étudier à l'étranger. Ça doit faire grincer des dents, non?
Ah oui, c'est sûr. Pour les étudiants qui comptaient dessus, c'est un coup dur. Le gouvernement invoque l'économie, la qualité des facs locales qui augmente.
Et la lutte contre la fuite des cerveaux.
C'est l'argument officiel, oui. Les réactions sont mitigées. Certains sont déçus, bien sûr. D'autres espèrent que l'argent économisé ira vraiment améliorer le système sur place. Les prêts étudiants.
Mais l'espoir fait vivre, comme on dit. C'est pas gagné.
C'est un peu ça. La mise en œuvre sera clé.
Et pour finir, le Sénégal, la justice qui s'intéresse au fonds Covid, 5 anciens ministres visés.
Oui, devant la haute cour de justice. Ça met de la tension politique, forcément.
Le parti de l'ex-président Sall, l'APR, monte au créneau.
Tout à fait, ils défendent leurs membres, demandent un procès équitable. Maître Sidiki Kabal, responsable, a parlé de revolver pointé sur la tempe.
Carrément. Et du coup, il refuse le dialogue national proposé par le nouveau pouvoir.
C'est ça. Ça montre à quel point le climat est tendu. Et ça pose la question, est-ce une vraie lutte anti-corruption ou y a-t-il une instrumentalisation politique derrière? Difficile à dire.
Bon, on a fait un sacré tour de l'ingéniosité locale au Burkina, au Grand Port, au Cameroun, en passant par les tensions mondiales qui résonnent sur le continent.
Jusqu'aux défis bien concrets de l'éducation au Nigeria ou de la justice au Sénégal.
Oui, ce qu'on voit, c'est cette complexité africaine. Une volonté de trouver des solutions maison.
Comme les blindés, ou la réforme éducative.
Tout en étant pris dans des partenariats internationaux majeurs comme CRIBI et puis les influences, les conflits extérieurs qui pèsent.
C'est une tension permanente en fait, entre le développement endogène et l'intégration dans la mondialisation avec ses avantages et ses risques.
Alors la question qu'on pourrait laisser en suspens c'est, dans ce monde hyper connecté mais aussi plein de tensions, comment on trouve le bon équilibre entre développer ses propres forces et s'appuyer sur l'extérieur.
Surtout pour assurer la sécurité et la prospérité. C'est le défi majeur, peut-être.
Voilà. De quoi réfléchir.